La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. André Breton est né en 1896, mais il a daté le véritable commencement de sa vie à l'année 1913, quand il a pu s'affranchir d'une atmosphère familiale qu'il trouvait étriquée et s'est ouvert sur l'extérieur, le monde et les arts. Personnalité volcanique, mais aussi émotive, sous des airs réservés, il était capable d'oukase autant que d'attendrissement, comme nous l'a raconté hier son biographe Henri Béard au cours de notre premier numéro à retrouver en téléchargement. Et puis demain, nous nous intéresserons aux écrits sur l'art de Breton avec Étienne-Alain Hubert qui les a édités dans la bibliothèque de la Pléiade. Avant jeudi, de nous arrêter sur son livre Nadja, d'abord par une approche psychanalytique avec Christiane Lacote-Détriba, puis d'une manière plus subjective grâce à Serge Filippini, l'auteur du roman J'aimerais André Breton, dont l'héroïne ressemble par bien des aspects, vous l'entendrez, au personnage de Nadja. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour parler du surréalisme, ce courant littéraire, artistique et philosophique qu'a développé André Breton, nous sommes en compagnie de Jacqueline Chaigneux-Gendron, directrice de recherche émérite au CNRS. Elle a enseigné aux universités de Paris et de Princeton et elle est spécialiste de la pensée du surréalisme, avec notamment deux ouvrages publiés aux éditions Honoré Champion en 2014, « Surréalisme, l'esprit et l'histoire » et « Inventer le réel, le surréalisme et le roman 1922-1950 ». Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
Surréalisme, nom masculin, automatisme psychique pur par lequel on se propose d'exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée. Dictée de la pensée, en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. Encyclopédie, philosophie. Le surréalisme repose sur la croyance à la réalité supérieure de certaines formes d'associations négligées jusqu'à lui, à la toute-puissance du rêve, au jeu désintéressé de la pensée. Il tend à ruiner définitivement tous les autres mécanismes psychiques et à se substituer à eux dans la résolution des principaux problèmes de la vie.
Un extrait du premier manifeste du surréalisme lu par Jean Negroni. Bonjour à vous, Jacqueline Chaigneux-Gendron. Alors, on vient d'entendre une définition du surréalisme par Breton. Et ce qui frappe, c'est la place donnée à l'imagination. Est-ce que vous diriez que l'idée directrice de Breton, c'est précisément de redonner sa vraie place à l'imagination dans toutes les aires de la vie, de s'abandonner à l'imagination, à la rêverie? Ça vous paraît juste de dire ça?
Oui, tout à fait, tout à fait. L'imaginaire, l'imagination, sont des mots qui ont été prononcés juste avant la guerre déjà par Sartre, hein, l'imaginaire, dans un sens pas si lointain que ça de ce qu'en a fait André Breton. Et en 24, la citation qu'on vient d'entendre fixe de façon un peu rigide le cadre dans lequel il s'agit de se placer. Moi, ce qui me touche chez Breton, vous m'avez présenté comme comme quelqu'un qui s'intéressait aux idées. C'est vrai, je m'intéresse aux idées qui traversent le surréalisme. Mais ce qui m'intéresse, c'est la façon dont les idées émergent chez Breton. Et dans le avant d'avoir prononcé cette définition, encore une fois assez forte, mais en même temps assez rigide, Mais il a écrit des textes, et la grande aventure, c'est quand même celle des champs magnétiques, en 19. Philippe Soupeau donne le « là », on l'oublie, Philippe Soupeau écrit les premières lignes, et puis Breton continue, et c'est une aventure extraordinaire qui est recomposée par Breton, etc. Bon. Donc, cette aventure de l'écriture automatique, elle est au cœur de l'expérience de l'imagination surréaliste, et elle mine le milieu, elle mine l'écriture. C'est-à-dire que à tout moment, la doctrine surréaliste est ressource dans de l'imaginaire pur, dans une écriture comme ça qui va de l'avant.
Parce qu'il faut préciser peut-être pour nos auditeurs qu'il y a plusieurs étapes dans le développement du mouvement surréaliste, hein, vous les racontez précisément dans votre livre. Ça commence par l'automatisme, on va les reprendre dans l'ordre les étapes si vous le voulez bien. Ensuite, il y a l'idée du hasard objectif, la question de l'humour noir et la question du mythe, et je voudrais qu'on les reprenne les uns après les autres. Mais pour terminer sur, ou pour poursuivre plutôt sur une définition un peu plus globale de ce que c'est que le surréalisme, il faut dire que c'est l'imagination au service d'une libération des pulsions, alors des pulsions qui peuvent être érotiques, des pulsions de violence aussi. Enfin, il s'agit tout de même de casser des codes sociaux et même des codes d'écriture, Jacqueline Chaigneux-Gendron.
Casser les codes, oui, mais pour reconstruire. Hein,
Alors, pour reconstruire quoi et comment ?
Pour reconstruire une poésie qui pense, c'est ma position, hein, c'est-à-dire une poésie qui s'accroche à décrire le réel à venir de la meilleure façon possible.
Donc c'est une... Décrire le réel à venir.
Le réel à venir, et donc en même temps, tout est toujours... coagulé, je dirais, dans la pensée
pourquoi
surréaliste.
Le réel à venir.
Le réel à venir, parce que le réel d'aujourd'hui, le réel du quotidien n'est pas toujours celui qu'on souhaiterait qu'il soit.
Et donc il y a une dimension de projection dans le surréalisme.
Et il y a une dimension de projection constante dans le surréalisme. Cet à venir qu'on peut écrire en deux mots, hein, c'est une dimension temporelle qui est absolument fondamentale.
Donc, il ne faudrait pas, si je comprends bien ce que vous dites, se contenter de voir dans le surréalisme simplement un briseur d'interdits, un briseur, je le disais, de codes sociaux. C'est autre chose que cela, c'est plus que ça.
Absolument, absolument. Mm-hmm. Et le surréalisme, surtout le surréalisme d'André Breton, est miné, si je puis dire, de façon ambivalente, par l'espoir, c'est-à-dire on détruit pour reconstruire, on ne le répétera jamais assez. Hein. D'ailleurs, un des volumes que j'ai regroupé, mais qui n'est pas de moi, puisque c'est une anthologie, a pour titre « Il y aura une foi », hein, qui est une magnifique formule utilisée par Breton en 1930, au moment où déjà le surréalisme a pris corps et où quand même on ne s'arrête pas là, c'est l'avenir qui est en question. Il y aura une foi. Et il y a pour moi, ce texte de Il y aura une foi, dont j'ai appris tout récemment qu'il n'était toujours pas traduit en anglais, ce qui est une chose capitale pour la connaissance générale du surréalisme à l'étranger. Ce texte est fondamental. Il faut en revenir à lui, je crois, à tout moment.
Est-ce que vous diriez que c'est une philosophie de vie, le surréalisme ? Est-ce que vous diriez que c'est une philosophie de vie ?
Une philosophie de vie, à tout à fait. Alors, au-delà et à côté de cette visée poétique, donc dans l'écriture, et sociale dont on vient de parler, c'est aussi une manière de vivre en suivant tout ce que l'affect vous incite à regarder de en face, hein, et notamment dans la rencontre avec entre personnes qui ont quelque chose à se dire, et cette relation forte avec l'amour est une constante essentielle du mouvement.
Le surréalisme a commencé par être un nom qu'un certain nombre de jeunes gens qui étions des amis et qui avions des vues communes sur beaucoup de choses avons accepté même de l'extérieur jusqu'à ce que nous lui donnions un autre contenu. En réalité, les surréalistes ne méprisaient pas la réalité. On a le tort de les considérer en fonction d'une seule de leurs activités expérimentales, que nous appelions, plus ou moins heureusement, l'écriture automatique. Mais c'était pour nous, d'abord, un procédé qui avait une valeur d'exploration, et d'exploration en nous des reflets de la réalité même, des reflets de la réalité dans le poète, de contrôle de domaines mal définis, comme des sortes de grandes chasses intérieures.
Louis Aragon, au cours d'un entretien avec Francis Crémieux en 1963. C'est donc par l'écriture automatique que tout commence en 1919, Jacqueline Chénieux-Gendron.
Oui, mais je vais aller dans un autre sens, puisque je viens d'entendre la voix d'Aragon et de cette belle définition. Je voudrais bien quand même que la voix de Breton, par ma modeste voix, se fasse entendre. C'est-à-dire que il y aura une fois, d'accord, l'écriture automatique, mais il y aura une fois dont je parlais tout à l'heure, j'aimerais bien y revenir avec les mots mêmes de Breton, si vous permettez.
Bien sûr, mais pourquoi l'écriture automatique, ça n'est pas intéressant pour vous ?
L'écriture automatique est intéressante pour moi, mais elle a été abandonnée par André Breton en 1933, de façon tout à fait officielle, si j'ose dire, et tout à fait définitive. Elle a été relancée une dizaine d'années plus tard, et notamment dans la peinture, mais seulement la question de l'écriture automatique, c'est de savoir quand est-ce qu'on s'arrête. C'est comme le geste, c'est comme le geste automatique. Un geste automatique qui s'en irait comme cela indéfiniment droit devant lui serait du délire. On ne dira jamais assez combien il y a un rythme, un souffle, y compris dans les textes automatiques. Le premier texte, Breton sous peau, a été écrit sur des pages volantes qui ensuite ont été remodelées, non pas remodelées dans le contenu des mots, mais construites, mises côte à côte d'une façon différente probablablement de la date précise, de l'heure précise où elles ont été écrites, pour constituer un livre. Donc, et ce n'est pas une trahison, c'est encore une fois la différence entre le geste du peintre et le geste de l'idiot qui trace un machin sur le sol.
Vous avez l'impression que c'est le procès qu'on fait quand on connaît mal le surréalisme au surréalisme, c'est ça ?
Absolument. Et puis, quand on fait faire de l'écriture automatique aux enfants, c'est du délire. Donc, et c'est pourquoi je mets l'accent sur l'imagination, parce que, et avec l'énergie qui est celle de l'invention, de l'inventeur, c'est l'énergie d'un dément n'est peut-être examinée avec étonnement.
Ça intéressait en tous les cas André Breton. La question de la folie est tout même importante.
Bien entendu, bien entendu. C'est plutôt l'enfant, n'est-ce pas? Je veux dire que la vertu de l'enfance est aussi à solliciter les vertus de l'enfance.
Parce que Picasso disait bien que finalement il aspirait à peindre comme un enfant. Donc peut-être que André Breton n'aurait pas finalement détesté l'idée qu'il pouvait y avoir une part d'enfance dans l'écriture automatique.
C'est autre chose, la part d'enfance. La part d'enfance, ça peut être la naïveté, ça doit être la naïveté devant ce qui est, l'admiration devant certaines formes. Ça n'est pas toute la pulsion de l'inconscient ou de Dieu sait quoi.
Et donc vous souhaitiez nous lire quelque chose.
Moi, je voulais bien
pour
lire,
donner
si
un peu une meilleure idée finalement de ce qu'est André Breton, enfin son texte.
Oui, je voudrais bien lire cette phrase parce que c'est deux phrases. Mais où sont les neiges de demain? Donc c'est en 1930, hein, Breton 30. Je dis que l'imagination, à quoi qu'elle emprunte, et cela pour moi reste à démontrer si véritablement elle emprunte, n'a pas à s'humilier devant la vie. Il y aura toujours, notamment entre les idées dites reçues et les idées, qui sait, à faire recevoir, une différence susceptible de rendre l'imagination maîtresse de la situation de l'esprit. C'est tout le problème de la transformation de l'énergie qui se pose une fois de plus. Et ici surtout, se défier comme on fait outre mesure de la vertu pratique de l'imagination, c'est vouloir se priver coûte que coûte des secours de l'électricité dans l'espoir de ramener la houille blanche à sa conscience absurde de cascade. Alors si vous voulez, le débat de l'écriture automatique, pour moi c'est ça, c'est la question de la cascade. Est-ce que toute cascade est surréaliste, si j'ose dire? Eh bien la réponse est non. Pour Breton, et c'est là que je trouve le nœud fondamental de la pensée de Breton. Non pas contre l'écriture automatique au sens vague qu'on donnait tout à l'heure à ce terme, mais une écriture automatique réélaborée en profondeur.
Oui. Alors il y a aussi la question du tremplin, qui est une technique de l'écriture automatique, je crois, et c'est l'idée qu'une phrase va ouvrir un imaginaire. Je propose d'écouter justement André Breton évoquer dans son premier manifeste du surréalisme une phrase dite tremplin, et qui est « Il y a un homme coupé en deux par la fenêtre ». On écoute.
Un soir donc, avant de m'endormir, je perçus, nettement articulé au point qu'il était impossible d'y changer un mot, mais, distraite cependant du bruit de toute voix, une assez bizarre phrase qui me parvenait sans porter trace des événements auxquels, de l'aveu de ma conscience, je me trouvais mêlé à cet instant-là. Phrase qui me parut insistante, phrase, oserais-je dire, qui cognait à la vitre. J'en pris rapidement notion et me disposai à passer outre quand son caractère organique me retint. En vérité, cette phrase m'étonnait. Je ne l'ai malheureusement pas retenue jusqu'à ce jour. C'était quelque chose comme « Il y a un homme coupé en deux par la fenêtre ». Mais elle ne pouvait souffrir d'équivoque, accompagnée qu'elle était de la faible représentation visuelle d'un homme marchant et tronçonné à mi-hauteur par une fenêtre perpendiculaire à l'axe de son corps. À n'en pas douter, il s'agissait du simple redressement dans l'espace d'un homme qui se tient penché à la fenêtre. Mais cette fenêtre ayant suivi le déplacement de l'homme, je me rendis compte que j'avais affaire à une image d'un type assez rare et je n'eus vite d'autre idée que de l'incorporer à mon matériel de construction poétique.
La compagnie des auteurs sur France Culture, qu'est-ce qui vous semble important à retenir dans ce qu'on vient d'entendre, Jacqueline Chenu-Gendron?
Eh bien, je vais peut-être vous surprendre, mais c'est l'obsession des formes. Mmh. parce que les sons, la base sonore est évidemment mise en évidence ici par Breton, mais aussi la forme. Un homme, il y a un homme coupé en deux par la fenêtre. Bon. Alors, on pourrait dire beaucoup de choses sur coupé, on les a déjà dit, etc. Mais l'obsession des formes, le fait que Breton sache regarder, eh bien, moi, ça me paraît extrêmement important. Et ce n'est pas du tout un hasard si, s'adressant à Aragon, ami intime, comme on sait, dans les années 1920, il lui envoie des lettres qui sont des lettres collages. J'en ai même apporté une ici pour vous convaincre. elle a déjà été exposée, mais...
Nous tâcherons de prendre une photo et de la poster sur le compte Twitter de l'émission pour que les auditeurs puissent la voir.
Voilà, voilà. Et il y a un rythme, hein, il y a un rythme formel, un rythme plastique dans la pensée imaginaire, dans l'imagination de Breton.
Mais ça, c'est très intéressant parce que vous ramenez Breton, et vous avez raison, à la forme, au concret, à la poésie, à la beauté des images. Oui, c'est très important, en effet, que le terme d'image chez André Breton. Et pourtant, il a une écriture qui peut paraître, enfin, qui a la réputation d'être assez théorique, parfois un peu difficile. Je sais que vous combattez justement cette manière de voir. Pourquoi, selon vous, est-ce que Breton s'est complu finalement dans une forme de difficulté dans ses textes, alors qu'il est en effet pris dans la vie, il est totalement dans la vie? C'est pas un mystère pour vous, ça, un petit peu?
Écoutez, on écrit comme on peut. Breton écrit. Il écrit. J'ai la chance de travailler en ce moment sur l'écriture de sur le manuscrit de Nadja. Il écrit avec une dynamique impressionnante et il ne revient pas sur ses pas comme d'autres le font en tricotant des ensembles informes. Certes, il se corrige, mais pas énormément. Il y a donc une dynamique qui est son souffle. On n'y peut rien. Hein. C'est le sien, c'est son souffle. Si on ne veut pas le considérer comme un écrivain, eh bien, on ne le lit pas. Mais je crois qu'il y a un souffle qui est un souffle complexe. Alors là, sur ce point, deuxième point, effectivement, ce souffle est complexe.
Ce qui en fait aussi l'intérêt, bien entendu.
Pardon ?
Ce qui en fait, bien entendu, l'intérêt aussi.
Ce qui en fait l'intérêt, moi, je... les phrases que je citais, que je cite usuellement, il y a ce qu'ayant beau le regarder, je n'ose jamais voir qui est tout ce que j'aime. Évidemment, on peut dire c'est contourné, mais si on le lit lentement, hein, il y a ce qu'ayant beau le regarder, moi j'ai eu la chance, j'ai eu la chance d'enseigner à des étudiants étrangers. Et cette nécessité d'aller lentement pour faire saisir une pensée qui est magnifique, eh bien, elle joue pour tout le monde.
Est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu sur quand même quelques axes théoriques qui permettent de mieux comprendre le surréalisme, notamment l'idée de hasard objectif. Alors c'est difficile évidemment de résumer cette idée comme ça en quelques minutes. Est-ce que vous pouvez nous dire tout de même de quoi il s'agit ?
Alors sans vouloir vous chercher chicane, le mot de hasard objectif est évidemment un point fort de la doctrine surréaliste, si on veut chercher une doctrine. Le mot apparaît tardivement chez Breton.
Il apparaît pendant la Seconde Guerre mondiale. Ah non, plutôt quand même.
En 33, oui, en 33. Et il a été repris immédiatement comme un truc, si j'ose dire. Hein. Et on l'a instrumentalisé.
Oui, mais justement, c'est peut-être l'occasion de redire avec vos mots ce que ça vous semble être sans instrumentalisation.
Écoutez, c'est tout simple. Avant avant que le mot n'apparaisse sur la plume de Breton, il y a Nadja, l'écriture de Nadja. Nadja dit d'elle-même que son nom, qui est un nom d'emprunt, est le début seulement du mot espérance en russe. Et que fait Breton ? Breton écrit sa rencontre avec Nadja, découvre que cette liaison ne fait pas sens pour lui, retombe du point de vue de l'enthousiasme qu'il y avait mis, et il s'arrête, Nadja s'efface de sa vie. Ensuite, Breton rencontre une personne qu'il appelle « toi » dans le livre, et qui s'appelle Suzanne Musard, peu importe, en qui il croit trouver enfin un amour réciproque. Alors voilà.
Donc ça n'est pas un hasard, ça devait arriver. C'est ça le hasard objectif.
C'est pas que ça devait arriver, c'est que dans le nom, dans le mot même de Nadja, il y avait cet espoir d'une rencontre complémentaire et totalement satisfaisante.
Est-ce qu'on peut dire par exemple que le hasard objectif, c'est le fait de faire advenir finalement ce qui est chez nous de l'ordre du désir ou de l'ordre de la peur? Ce qu'on a à l'intérieur de nous se produit à l'extérieur de nous, c'est un hasard, mais en même temps c'est un hasard objectif.
Je ne dirais pas désir et peur, je dirais les mots du désir et les mots de la peur. Ça relève de la de l'écrit, ça relève de l'inscription et pas de...
C'est un fait de discours.
C'est un fait de discours.
Ça veut dire quoi, c'est un fait de discours?
Ça veut dire que c'est articulé. Ça n'est pas le silence de mon cœur qui bat en ce moment. C'est un mot que j'articule.
Il y a aussi, j'annonçais en début d'émission qu'on allait revenir sur cette idée, le thème de l'humour noir. Qu'est-ce que ça signifie, l'invention de l'humour noir par les surréalistes, parce que l'humour noir, évidemment, il existait, il préexistait aux surréalistes, mais eux en donnent une acception tout à fait particulière, laquelle, Jacqueline Chenu-Gendron?
Écoutez, ce n'est pas Breton qui a inventé quelque chose, il a emprunté à Freud cette notion d'humour noir, et pas la formule, mais la notion, hein. Et quand Breton entreprend dès 35 d'ailleurs, de regrouper des textes du passé qui lui paraissent relever de cette forme de déni du réel, hein, qu'est l'humour noir.
C'est à ça que ça sert d'ailleurs?
Exactement. L'exemple que donne Freud lui-même, c'est celui du condamné à mort qu'on emmène à la potence un lundi et qui s'écrit « voilà une semaine qui commence bien ». Voilà, c'est-à-dire c'est le refus de l'humour noir, le refus de se laisser entamer par le réel.
C'est ça. Alors, le surréalisme, c'est ne pas se laisser entamer par le réel.
Absolument. Ne pas se laisser entamer par une représentation du monde convenue.
Et peut-être pas aussi, ne pas aussi se laisser entamer par une représentation du monde qui serait trop objective. Et là, on en vient peut-être à l'idée du mythe, qui est très importante aussi chez les surréalistes. Les surréalistes inventent des mythes parce qu'ils considèrent que ce qu'on nous présente comme étant une vérité scientifique, par exemple, ne peut ne peut recouvrir la totalité de ce qu'on pourrait appeler le réel. Donc le mythe, c'est une autre manière de dire la vérité, c'est ça, Jacqueline Chenu-Gendron?
Certainement. J'ai du mal à parler de mythe surréaliste parce que il y en a trop. Ce sont des mythes individuels. Chacun construit son objet mythique autour duquel il organise sa vie, peut-être. Actuellement, non, Actuellement, j'ai du mal à parler davantage de mythes. Je trouve qu'on a peut-être un tout petit peu chosifié la notion, mais...
Comme visiblement, vous avez l'impression qu'on a trop chosifié toutes les notions inventées par les surréalistes et par André Breton.
C'est ça.
Mais alors, qu'est-ce qu'il faudrait vraiment dire sur André Breton qu'on ne dit pas ou qu'on dit mal ?
Il ne faut rien dire, il faut le lire.
Eh bien, je vous propose de passer donc au conseil de lecture de Georges Marcabib, qui va nous parler de ce qu'il faut lire.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Oui, car conseiller de bons livres, c'est votre métier. Georges Marc, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Je rappelle que vous vous occupez de la librairie L'Atelier, rue du Jourdain, dans le 20e arrondissement de Paris. C'est une librairie membre du réseau Librest. Alors vous commencez votre chronique par un livre qui vous a semblé justement proche du surréalisme. De quoi s'agit-il ?
Alors proche, ou en tout cas qui aurait plu à mon avis à ces auteurs de surréalistes. Il s'agit d'un livre qui s'appelle Le Zoo de Rome, édité chez Actes Sud, d'un jeune auteur qui s'appelle Pascal Janov-Jacques. Et comme le titre l'indique, il s'agit évidemment de l'histoire du zoo de Rome, né en 1911, à l'époque grandiose où ces grands empires avaient besoin, à travers la création de zoos magnifiques, de prouver leur force et leur capacité coloniale. Voilà, donc ce zoo, 1911, mais malgré tout, ce roman démarre, lui, plutôt dans les années 2000, où on va suivre Giovanna, qui, suite à un déboire professionnel et politique, va se retrouver chargée de la communication de ce zoo, qui est évidemment un peu dans une période un peu nébuleuse. On va dire que le zoo dans les années 2000, on peut pas dire que ça soit là qu'il se passe les choses. Et bien pourtant, Giovanna va réussir, grâce à son carnet d'adresses et à son talent, à faire événement autour d'une naissance particulière dans ce zoo, d'un animal évidemment. Et voilà comment l'auteur va nous embarquer dans l'histoire un peu incroyable de ce zoo dans les années 2000, tout en nous racontant toutes les épopées qu'aura connu ce zoo de sa création en 1911 à l'heure actuelle. Voilà. Et au milieu de tout ça, et c'est peut-être là le côté un peu surréaliste, va traîner un personnage assez étonnant, Chahine, qui est un architecte algérois, qui est là, qu'on a envoyé en mission à Rome, mais tout le long du livre, on ne saura pas exactement quelle a été sa mission, et lui va passer son temps entre le zoo, une relation possible avec Giovanna et son hôtel.
Est-ce que vous pensez qu'on peut avoir une lecture surréaliste, Jacqueline Chenu-Gendron, du livre dont parle à l'instant Georges Marcabib ?
Ah, il me faudrait le lire, mais j'ai grande envie de le faire.
Ah ben, c'est déjà pas mal.
Alors, le deuxième choix, Georges Marc, pour nous, c'est un premier roman.
Un premier roman, il s'appelle Suiza, de Bénédicte Bellepoix, édité chez Gallimard. Alors ce premier roman, là aussi un peu étonnant, donc on part d'Italie, on va plutôt en Espagne, on est dans la Galice. La Galice est une région agricole, de montagne. Arrive dans un petit village une jeune femme, magnifique, mais pleine de mystères, qui ne parle pas la langue, qui arrive dans un état lamentable, qui va être prise en charge par les villageois, que l'on va appeler Suiza, puisqu'elle vient de Suisse, évidemment. Et Suiza va travailler dans le bar du village. Arrive dans ce bar Thomas, qui est le plus grand propriétaire terrien du village, celui dont la mère est morte en couche, dont le père désespéré l'a confié à une nounou, l'a envoyé faire des études au loin, et quand il a considéré que son fils était prêt, eh ben il s'est lui-même suicidé pour rejoindre sa femme et pour laisser à son fils, on va dire, un grand domaine agricole. Voilà. Thomas va rencontrer Suiza, et là va démarrer une histoire d'amour mais étonnante, où la brutalité et la rigueur de Thomas, ce paysan atteint d'un cancer, là, on cumule, va rencontrer la douceur et peut-être la bêtise de Suiza, qui malgré tout, à deux, vont réussir à reconstruire comme ça une vraie histoire d'amour magnifique.
Et votre dernière sélection, c'est un roman américain, Georges Marc, de quoi s'agit-il ?
Alors roman ou récit d'ailleurs, parce qu'il est nommé récit, il s'agit d'un livre qui s'appelle Pastel au barreau gris, écrit par Curtis Dawkins, et c'est édité chez Fayard. C'est un livre qui n'est pas vieux, hein, qui date de 2017 et qui donc vient d'être traduit chez Fayard. C'est en fait des récits d'un homme enfermé. Donc Curtis Dawkins, l'auteur, a été prisonnier. Donc ce sont des vrais récits de prisonniers. Ce qui est assez étonnant dans ce texte, c'est de voir comment, avec un quotidien, on va dire, les plus...
terrible.
Basique et terrible basique. Possible, mais basique parce que du coup on est enfermé entre soi avec d'autres hommes et on passe sa journée à attendre, mais on attend on ne sait quoi, n'est-ce pas? Et ben Curtis Dawkins arrive à en faire un vrai objet littéraire et c'est ça qui est assez étonnant, avec des personnages, des peintures de personnages assez incroyables, les gens donc qu'il va côtoyer dans ses prisons, avec des moments complètement improbables comme par exemple les moments où il va se mettre à appeler comme ça des numéros au hasard en prenant l'annuaire en PVC, c'est-à-dire en faisant payer les gens, en disant que ben voilà, je suis un prisonnier, je vous appelle pour parler. Et des gens les prennent et discutent avec ces gens-là qui sont en prison. Et des fois même, on se demande qui a le plus besoin de parler. Est-ce que c'est le prisonnier ou la personne qui a répondu? Voilà, donc des chroniques comme ça, assez étonnantes, de la prison américaine.
Et qu'on peut retrouver évidemment dans votre librairie L'Atelier. On peut vous retrouver aussi du lundi au dimanche. On peut également se rendre sur le site librest.com. Merci beaucoup Georges Marc, à très bientôt. Continue de parler du surréalisme d'André Breton dans la compagnie des auteurs et en particulier à présent des liens entre surréalisme et roman. Notre invitée est toujours Jacqueline Chaigneux-Gendron.
Il n'y a pas à faire chez Breton, il est impossible de faire une distinction, ce serait tout à fait formel, entre des écrits théoriques, on pourrait dire que les manifestes surréalistes sont, et des ouvrages plus directement poétiques comme Nadja ou L'amour fou. En fait, il n'y a pas de distinction. Vous trouverez pratiquement les deux choses intimement mêlées si vous regardez bien dans n'importe quel des textes qu'il a écrit. Il y a toujours dans ce qu'il écrit cette vibration poétique qui était pour lui l'essentiel. Et puis, il y a en même temps toujours, dans ces éléments même proprement poétiques, cet élément que j'appellerais didactique, mais c'est péjoratif et ça ne conviendrait pas, mais tout de même cette volonté de faire passer, de convaincre les gens de la valeur de ce qu'ils pensaient, car Breton avait tout de même ce côté prophète qui veut entendu, qui veut être écouté, qui veut passionnément répandre les idées dont il est porteur. Alors, il s'est produit une fusion assez étonnante, si vous voulez, l'élément théorique et l'élément poétique chez lui. C'est une des choses qui frappe également.
Un poète en même temps qu'un théoricien, nous dit Julien Gracq dans cette archive. C'est un petit peu ce qu'on racontait aussi dans la première partie de cette émission. En revanche, Breton romancier, ça non, ça n'est pas possible, on ne peut pas le dire. On a l'impression que, avec les surréalistes, il y a tout un nœud autour de cette question du roman, comme si il s'agissait là de la pierre de touche vraiment du surréalisme, que ce genre du roman. Qu'en pensez-vous, Jacqueline Chaigneux-Gendron, que pouvez-vous nous dire à ce sujet?
C'est vrai que dès le moment qu'on se laisse aller à décrire le monde tel qu'il est, on est mal parti pour en contredire le mouvement décourageant parfois. Et ça a été en effet, bizarrement, mais de façon forte, une tonalité du surréalisme tout entier que de refuser de décrire le monde tel qu'il est, alors que d'autres grands écrivains, évidemment, mais plutôt non français, je dirais, ont pris le parti de travailler les deux veines en même temps, si je puis dire. Hein. Mais pour en venir
Le monde tel qu'il est, ça n'est pas forcément la seule façon qu'a le roman de décrire le monde. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir des romans qui ne décrivent pas le monde tel qu'il est, des romans, je ne sais pas, fantastiques par exemple?
Alors, le fantastique est une chose qui souvent tourne à la dépréciation du monde, il faut le dire, hein, à l'effroi. Et ça n'est pas la note surréaliste. La note surréaliste est une note, disons, optimiste, pour parler tout simplement. Hein. Je parlais tout à l'heure de Nadja, début du mot espérance. Bon. C'est cela la note surréaliste, de façon obsessionnelle. La description, le métonymique, pour parler comme ça, de façon un peu ridicule, ça n'est pas la manière d'écrire sur Alice, ça n'est pas la manière de voir non plus. On ne met pas côte à côte une bouteille et un livre pour faire un tableau. On dessine des formes auxquelles on cherche sens.
Et pourtant, la question de la comparaison et de l'image existe chez Breton. Or, l'image, c'est bien mettre côte à côte deux réalités qui pourtant sont éloignées au départ, mais qui créent de la poésie. Donc, on est dans une forme de comparaison, peut-être un peu dégradée, mais enfin toujours présente.
On est dans une forme de juxtaposition, mais de juxtaposition qui crève la vue, mm-hmm. qui choque et qui n'ont pas de relation, banale.
Mm-hmm. Il s'agit d'éviter la banalité de toutes les façons. Est-ce que le surréalisme exclut pour autant tous les romanciers? Et là, je voudrais qu'on commence à parler un peu d'Aragon, cofondateur du surréalisme, Jacqueline Chenu-Gendron, dont on sait qu'il a écrit des romans, même si au départ, il était aussi critique, il a pu critiquer le genre du roman. Alors, Aragon est-il moins surréaliste que Breton? Breton a-t-il exclu Aragon? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus?
Écoutez, moi, je crois que les récits d'Aragon, de la période surréaliste, c'est-à-dire jusqu'en 27 et jusqu'en 31-32, sont d'une note complètement différente de celle de Breton. Là, déjà, Aragon a travaillé autour de cette idée d'incipit qu'il a formalisée ensuite.
C'est un peu la même idée que celle dont on parlait tout à l'heure, de l'image qui donne ensuite la production d'une écriture, espèce d'image tremplin.
L'image en plein, c'est effectivement, moi ça fait fort longtemps que je m'interroge là-dessus et je n'ai toujours pas de réponse. Aragon est un immense intellectuel, voilà ce que je pourrais dire, et Breton est un homme d'une extrême inventivité, d'une extrême intelligence, mais je parle pas d'intellectuel, alors je ne bémolise pas l'admiration que j'ai pour Aragon aussi. Bon, on n'est pas en train d'établir des hiérarchies. Ce qu'Aragon fait de plus brillant dans la période surréaliste, ce sont les petites nouvelles du libertinage, à mon goût. Et ces petites nouvelles, elles sont écrites à partir d'une phrase qui ensuite, se débobine. Mais elle ne se débobine pas comme un poème, elle se débobine comme l'articulation de personnages. Aragon voit tout de suite les gens derrière les mots, tandis que Breton ne voit pas les gens.
Qu'est-ce qu'il voit?
Il voit des formes. Il voit des formes.
Donc il ne voit pas les histoires aussi. Il ne voit pas de narration.
Il ne voit pas la narration. Il ne voit pas. Il voit le moment. Il ne voit pas l'histoire. Il voit le regard de deux personnes. Il ne voit pas les petites histoires qu'on peut en tirer. Alors, Aragon en tire des petites histoires tellement brillantes que je ne suis pas en train de dévaloriser Aragon en vantant Breton. Mais voilà, mettre côte à côte, il suffit de mettre côte à côte une page de Nadja et une page de l'une quelconque des nouvelles du libertinage, qui sont toutes fabuleuses. Eh bien, elles sont fabuleuses, justement. Elles sont dans un... elles mettent côte à côte des êtres distincts les uns des autres.
Mais c'est une manière de dire la narration, finalement, est impure. Pourquoi la narration serait-elle impure, finalement? Pourquoi le roman serait-il impur? Pourquoi est-ce que Breton, systématiquement, dès qu'il y a un début de narration dans ses livres, il s'en éloigne, il la casse?
La narration est impure parce que la narration prend le temps de... nous prend du temps. Et que il y a autre chose à faire que d'écrire ce qui existe déjà.
Mais enfin, dans le roman, on n'existe jamais ce qui existe déjà. On écrit toujours autre chose. Enfin, le roman n'est pas
c'est une,
décalque de la réalité.
Ce sont des décalques bien proches d'une photographie.
Comment se passe la rupture alors, Aragon-Breton? Parce que on a l'impression que ces deux-là sont tellement proches. Au départ, alors il y a évidemment, j'imagine, la politique qui va entrer là-dedans et qu'il faut prendre en ligne de compte. C'est presque un roman, pour le coup, que de raconter la rupture entre Aragon et Breton, Jacqueline Chenu-Gendron.
Oui, vous savez, il ne faut pas me demander de raconter ce roman-là. Il est trop, à la fois trop connu et trop complexe. Et Breton et Aragon étaient des amis d'une folle intimité. Et ils ont inventé ensemble le surréalisme. On ne peut pas le nier avec Philippe Sopeau, avec Éluard, et très vite avec Max Ernst. Cette rupture, elle s'est faite peu à peu dès les années 26, 27, parce que le brio d'Aragon paraissait abstrait à Breton. Voilà.
Il n'aimait pas le brio, de la même manière qu'il n'aimait pas Cocteau, par exemple, qu'il a détesté Cocteau toute sa vie. Oui. Est-ce qu'il n'y avait pas justement quelque chose qui le gênait là, dans, en effet, la facilité, par exemple, à parler d'un Cocteau, la facilité à agréger autour de lui aussi des gens et donc à briller? Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose qui le gênait profondément?
Non, Cocteau, c'est une autre histoire. Le brio d'Aragon est un brio abstrait pour Breton, et j'imagine que Breton trouvait qu'Aragon gâchait son lyrisme même. Hein. Voilà ce que je peux imaginer. Et ensuite, la brouille politique, elle s'est faite en plusieurs étapes et tout le monde sait ça.
Bon, en gros, l'idée, c'est de dire que finalement Aragon a choisi le Parti communiste et Breton non, s'il s'agissait de résumer les choses à grands traits. Alors, comment qualifier finalement le genre de livre qu'a écrit André Breton, puisque donc on vient de voir que ça ne sont pas des romans, mais est-ce que c'est seulement de la poésie? Quel est le genre des livres d'André Breton?
Alors, je pourrais répondre un peu facilement, il n'a pas de genre, mais en réalité, je dirais, c'est de bout en bout de la poésie.
Y compris dans ses écrits sur l'art, y compris dans ses écrits les plus théoriques.
Y compris dans ses livres sur l'art, la phrase que je cite, que je voudrais toujours citer, il y a ce qui en beau, le regarder, je n'ose jamais voir, qui est tout ce que j'aime. C'est dans le début du surréalisme et la peinture. C'est écrit en 25, d'ailleurs, en même temps que Nadja. C'est une poésie qui pense, et c'est une poésie qui pense la politique. Voilà.
À quand fais-tu? De quand fais-tu? Trois cons. Fais-tu
chère Jacqueline Chenu-Gendron, vous êtes donc venue, on le disait au début de cette émission, avec un collage. Pourquoi êtes-vous venue avec ce collage et est-ce que vous pouvez le décrire sommairement à nos auditeurs?
Parce que je crois qu'il faut regarder l'œuvre de Breton, la regarder en lisant des extraits et la regarder comme une forme poétique. J'insiste sur cet aspect de forme. On parlait d'Aragon tout à l'heure, grand intellectuel. La forme apparaît ailleurs chez Aragon, tandis que chez Breton, elle est là tout de suite, je crois. Et pour cette volonté d'écrire à son ami Aragon une lettre qui soit un collage, c'est quand même une étrange aventure.
Est-ce qu'un collage, justement, c'est une comparaison mais surréaliste et picturale, en ce sens que il s'agit de mettre différents textes les uns à côté des autres, comme dans une comparaison on met différents réels dans une même formule.
Exactement. La forme, vous voyez, par exemple, tout est dans tout chez Breton. Mais pour parler de politique, j'ai l'air de m'écarter du sujet, mais un des plus beaux textes que je connaisse, dans Arcane 17, oppose les drapeaux rouges et les drapeaux noirs d'une grande manifestation en 1913 auprès Saint-Gervais. Et juste une phrase... je continuerai à frémir plus encore, c'est Breton qui parle, à l'évocation du moment où cette mer flamboyante, mer des drapeaux rouges, il ne dit mer, hein, ça bouge, mm-hmm. Les drapeaux rouges bougent. Bon, cette mer mer flamboyante, par places peu nombreuses et bien circonscrites, s'est trouée de l'envol de drapeaux noirs. Alors, cette mer, et alors ici, on voit bien cette façon bizarre pour certains de d'écrire.
Enfin, poétique, tout simplement.
Bon, on peut dire ça comme ça, en effet. Cette mer, elle s'est trouée de l'envol de drapeaux noirs. La phrase est très longue, ça se termine par un monosyllabe, hein, c'est rude. Et par place peu nombreuses et bien circonscrites, il s'agit des drapeaux noirs de l'anarchie. Voilà, la forme de la phrase, elle est tout à fait extraordinaire. Et je pourrais dire que c'est presque comme un collage.
Il faut vraiment lire ligne à ligne, comme vous venez de le faire, André Breton, et prendre son temps. Je crois que c'est ça qu'on retiendra de cette émission, pour le lire vraiment. Vous avez fait oui de la tête. Est-ce que vous avez eu envie un jour d'écrire un roman surréaliste, Jacqueline Chenu-Gendron?
Non, certainement pas, je ne me sais pas risquer. Mais comme André Dalmas, à la revue Le Nouveau Commerce, m'avait dit, mais voyons, vous écrivez. Alors, bien entendu, je lui ai donné quelques pages que j'avais écrites. Et il les a publiés, mais ça n'est pas du même genre, n'est-ce pas? Moi, j'écris des toutes petites choses et des petits contes de deux pages, des choses comme ça.
Le surréalisme continue de vous enthousiasmer, comme il vous a toujours enthousiasmé. Ça fait maintenant de nombreuses années que vous travaillez sur ce sujet.
Je n'y comprenais rien autrefois, et c'est pourquoi je m'y suis attachée. Et j'ai d'ailleurs essayé une fois de demander son avis à Julien Gracq. Et je lui ai dit, vous ne trouvez pas, Julien Gracq, que ce Breton est difficile à lire? Il m'a dit, non, pas du tout. Alors, bon, moi, je trouvais ça très difficile et incompréhensible. Et c'est pourquoi j'ai essayé de le lire et de le relire et de le faire goûter, j'insiste, à des gens jeunes et non francophones. C'est ce qui m'a toujours frappé.
C'est ce que vous conseillez donc à nos auditeurs aujourd'hui. Merci beaucoup, Jacqueline Chenu-Gendron. On
On a donc suivi tout au long de cette émission vos deux ouvrages des éditions Honoré Champion, Surréalisme, l'esprit et l'histoire, et également Inventer le réel, le surréalisme et le roman. Il faut noter aussi que vous avez été associé à de grandes expositions, la révolution surréaliste au Centre Pompidou en 2002, Picasso surréaliste à la Fondation Beyeler en 2005. Vous êtes membre du comité scientifique du site andrébreton.fr sur lequel nous renvoyons d'ailleurs nos auditeurs. C'était La Compagnie des auteurs, une émission de Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Garance Mazelier, Nicolas Delmas. Notre semaine André Breton, elle se poursuit demain. Nous parlerons plus spécifiquement de ses écrits sur l'art. Ce sera avec Étienne-Alain Hubert qui les a édités dans La Pléiade. Tout de suite de la poésie encore, mais sous une autre forme, avec les lectures de Jacques Bonafé.
Bonjour, bonjour La Compagnie. Cette semaine, Jean-Claude Pirotte, dont on vient de sortir une intégrale de poésie chez Gallimard Poche, une grosse poche, hein, à joie. Il faut que ça rime ou que ça pleure, c'est du Pirotte, laissez couler, c'est couler. Il parle un pays caché. Dites que vous venez par hasard, dites que vous venez pour boire un verre d'eau sans cassis, à la rigueur, une chopine. Dites que vous venez pour la moisson, même si c'est hors de saison. Dites que vous venez pour l'annonce et que vous venez de la gare par le rapide en première classe. Dites que vous passez pour la chasse aux chômeurs, aux métèques. Dites que vous venez pour le chèque, avec de grandes espérances. Ne dites pas que vous venez de la Mecque. Dites que vous venez pour la France et pour traquer les fantômes. Ne dites rien à la servante qui est une enfant de l'assistance, ne dites rien au chien qui dort, et s'il aboie, dites que vous passiez par erreur. Ces mots d'un territoire caché, sans voix, d'un arrière-pays oublié, mots pour aujourd'hui de nostalgie ou de beauté perdue. Sur la route de Louviers, plus jamais de cantonniers, de coquelicots, de colporteurs, de lacets et d'almanachs, plus de marcheurs, plus de champs, plus de sous-préfets aux champs, ni de modernes nanas, mais un clochard solitaire qui fut dans une autre vie garde champêtre honoraire, ou bien même épouvantail. On a fermé le ventail de l'ultime métairie sur la route de Louviers. Les fantômes estropiés s'en vont claudiquant vers les horizons désespérés. Ou alors on peut trouver aussi page 60, « Sur la route des monts d'Arrée, je rencontre le cantonnier. Je lui dis « Ta fille est folle ». Il répond « Je n'ai pas de fille ». L'as-tu donc entendu chanter ?« Je suis sourd, je suis fatigué. N'as-tu pas remarqué les fleurs qui le soir perdent leur couleur ?»« Au diable les fleurs, moi je suis aveugle. » Mais si tu es sourd, tu vois le silence qui se fait quand s'élève un chant qui désespère l'océan. L'océan, ce qui le surprend, c'est les coups de pioche et la nuit, c'est le fouet pour battre ma fille. Encore une fois, la loi vertigineuse de l'enjambement jusqu'à perdre l'équilibre, la poésie serait une phrase sans point, infinie. L'art mineur ou le lard maigre, pareillement dégraissé, quand donc aurons-nous assez de vin pour que le vinaigre leur donne ce goût blessé des nourritures malingres ou ces accords déplacés des tristes violons dingres? Au repas des trépassés, l'avenir et le passé trempent dans la même écuelle et tournent la même vielle. Nous chanterons donc toujours de nos vieilles voix cassées, aussi faux que les beaux jours chantaient dans le vent glacé. Pardonnez, ô Notre-Dame, à nos âmes vinaigrées, d'adorer ce qui les damne, sans voir ce qui vous agrée.
Jacques Bonafé, merci, vous continuez à nous lire des textes de l'écrivain belge Jean-Claude Pirotte.